place à la revue de presse internationale avec vous, Élise Delève. Bonjour.
Bonjour.
Les journaux sont nombreux à évoquer ce matin les suites de l'affaire Khashoggi.
Et oui, chaque jour, les quotidiens du monde relatent les nouveaux éléments de cette tragique affaire. Hier, le procureur d'Istanbul a confirmé les détails glaçants de l'assassinat du journaliste. Il aurait été étranglé dès son arrivée au consulat. Mais s'interroge entre autres le Washington Post où se trouve son corps. Si ce quotidien américain en parle tous les jours, c'est évidemment parce que Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien, était l'un de ses journalistes. Mais l'onde de choc va bien au-delà. Et c'est ce que rappelle un autre journal américain, le New York Times. Pourquoi le meurtre de Jamal Khashoggi a-t-il fait tant de bruit, s'interroge le quotidien, qui tente de trouver des explications. Parce que c'était un journaliste qui avait beaucoup d'amis et de relations haut placées. Les meurtres attirent l'attention, explique un professeur de droit international. Ils suscitent la peur, mais quand la victime est connue, la peur a soudain un visage. Ensuite, parce que l'assassinat a eu lieu dans le consulat d'Arabie Saoudite. Un consulat, c'est un lieu censé protéger, un lieu de refuge. Enfin, cette affaire a eu un tel écho international car elle a montré une autre facette de Mohammed ben Salman, le prince héritier. Un prince avec qui il faut que les États-Unis prennent des distances, écrit Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale sous Barack Obama. Nous devrions cesser de suivre le prince Mohammed dans les impasses où il nous mène et instaurer un scepticisme sain dans nos rapports avec lui. Le monde s'interroge, les journalistes s'interrogent, mais celle qui s'interroge le plus, évidemment, c'est Hatice Cengiz, la fiancée de Jamal Khashoggi. Après s'être cachée des médias pendant plusieurs semaines, la jeune femme commence à parler à la presse. Elle a notamment accordé une interview hier au Middle East Eye. Elle refuse d'entrer dans les détails de la mort de son fiancé. « Les gens ne semblent pas comprendre ce que je ressens », dit-elle. « La douleur que je vis est devenue une information relatée à travers le monde ». Impossible de commencer un deuil en silence. Hatice Cengiz a refusé l'invitation de la Maison Blanche. Elle est très critique envers Donald Trump et les dirigeants européens et n'est pas d'accord avec la manière dont ils ont réagi. Ils auraient dû prendre des mesures plus sérieuses et soutenir la position turque, estime-t-elle. Nous avons un crime clair et grave. Dans cette interview, elle se met à la place de celui qu'elle aime et qu'elle a perdu. Jamal serait heureux de voir toute la solidarité qui est née autour de sa disparition. Il se battait pour la liberté d'expression en Arabie Saoudite et se faisait l'avocat des réformes qui pouvaient moderniser son pays. Parfois, quand il était seul, raconte sa fiancée, il se disait « Est-ce que je fais vraiment quelque chose d'utile ?» Maintenant, il saurait que oui.
Et puis autre sujet dans les journaux aujourd'hui, l'OTAN. Les alliés sont en plein exercice militaire en Norvège, le plus gros depuis la fin de la guerre froide.
50 000 soldats, 31 États qui s'entraînent à faire la guerre depuis une semaine et jusqu'à mercredi. Mais pourquoi donc, me direz-vous? Le Time tente de répondre à cette question. Et c'est l'amiral Stavridis en personne, 16e commandant suprême des forces alliées, l'un des plus hauts grades de l'OTAN, qui répond. Ces exercices permettent déjà de pratiquer l'art de la guerre, dit-il, et d'apprendre à se coordonner entre alliés sur un continent en paix depuis des décennies. Ensuite, il montre aux Russes la capacité militaire de l'OTAN. Ce n'est pas difficile d'entendre les vieux fantômes de la guerre froide siffler dans les vents de la mer Baltique, note l'amiral. Enfin, la manœuvre militaire de cette semaine est une réponse au méga exercice russe de septembre. En Norvège, 50 000 soldats alliés sur un faux champ de bataille. Attention à la logistique, il faut tout prévoir. Les repas, près de 2 millions. Les bouteilles d'eau, 4,6 millions. Et des vêtements chauds. Les Pays-Bas n'y ont pas pensé. Le journal néerlandais de Telegraph rapporte que l'état-major a oublié les doudounes et les habits chauds pour les 1000 soldats qui participent à l'exercice. Apparemment, le ministère de la Défense ne savait pas qu'il faisait si froid en Norvège.
Et puis au Royaume-Uni, depuis ce matin, les médecins ont le droit de prescrire des médicaments dérivés du cannabis pour traiter certaines maladies.
Oui, de l'autre côté de la Manche, c'est tout nouveau. Mais au Canada, on voit déjà les effets de telles mesures. Il y a 10 jours, le pays a légalisé le cannabis récréatif. Et depuis hier, les Canadiens sont en rupture de stock. Le Financial Post raconte au Québec, les boutiques officielles ont fermé pendant 3 jours cette semaine, mais cela n'a pas suffi. Elles vont rester fermées du lundi au mercredi jusqu'à ce que l'offre puisse satisfaire la demande. Conséquence, les gens retournent sur le marché noir, déplore le journal. Les producteurs autorisés par le gouvernement canadien ne combleraient que 30 à 60% de la demande. Le boom du cannabis, une opportunité financière que ne sont pas prêtes à saisir les grandes banques. D'après CNN Business, les banques sont toujours frileuses à prêter de l'argent aux industries du cannabis, même s'il est légalisé dans certains États américains. Elles risquent de rater une énorme manne. Le secteur de la marijuana devrait substantiellement augmenter dans les 5 prochaines années. Les ventes aux États-Unis devraient atteindre 23 milliards de dollars. Hier, le Canada, aujourd'hui, le Royaume-Uni et demain, la Thaïlande. Pour le South China Morning Post, ce pays va devenir le nouvel Eldorado du cannabis. La légalisation est en discussion et les Thaïlandais l'assurent. Le cannabis de Thaïlande est le meilleur du monde et surtout le moins cher.
Merci Élise Delève.